Je vous ai promis ce matin de vous donner quelques points doctrinaux sur la réalité de la résurrection du Christ. Tous les ans, j'essaie de vous donner, de vous présenter une facette ou une autre. Je mourrai avant de vous avoir donné toutes les facettes, donc je vais vous en donner une nouvelle aujourd'hui. Lorsque les saintes femmes arrivent au tombeau, le Seigneur, vous l'avez entendu cette nuit pendant la proclamation de l'Évangile, l'ange leur demande « Qui cherchez-vous ? » Le crucifié, il n'est pas ici, mais il s'est réveillé. Et je veux insister ou attirer votre attention sur le « il n'est pas ici ». Effectivement, maintenant, le tombeau est vide. Et pour votre difficulté comme pour la mienne, nous ne voyons pas le Christ. La joie que vous connaissez à Pâques, et je crois à d'autres moments aussi, témoigne de la puissance de l'Esprit-Saint qui vous montre comment Dieu est vivant. Cependant, vous comme moi, nous sommes d'une certaine manière frustrés de ne pas voir celui dans lequel, en quel nous croyons, le Christ. Il n'est pas ici. Le tombeau est vide. C'est-à-dire que depuis la résurrection, à part quelques moments qui furent nombreux au début de l'Église, le Seigneur s'est rendu absent à notre regard. Il faut dire que cette absence chez lui est une habitude. Il est Dieu, n'est-ce pas? Et en s'incarnant, il a intentionnellement, nous l'avons chanté pendant les offices ces jours-ci, il a intentionnellement abandonné l'exercice de sa gloire en tant que Dieu pour se faire semblable à tous les hommes, y compris dans leur déchéance, hormis le péché qu'il n'a jamais commis. Et maintenant, de nouveau, il s'abaisse encore en se rendant invisible alors qu'il est présent parmi nous. Vous le cherchez, n'est-ce pas? Vous le cherchez, vous ne le voyez pas. Et c'est normal que vous ne le voyez pas, puisqu'il s'est rendu absent à nos regards, puisqu'il n'est pas ici. Lorsque il se manifeste dans le jardin de Gethsémani à Marie-Madeleine, qui aussitôt se jette à ses pieds pour qui reconnaît son Seigneur, il dit « me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Surtout ne pas le toucher, ne pas le voir. » C'est encore une fois une forme de kénose, une forme de renoncement à lui-même pour ne pas nous effrayer et pour nous laisser libres, pour que nous croyions sans voir, parce que nous voyons autrement qu'avec nos yeux. Nous voyons avec les yeux de la foi, et les yeux de la foi sont supérieurs à toute expérience physique. Et ceci est une grâce de Dieu parce que, je ne voudrais pas vous scandaliser, mais quelle que soit votre joie aujourd'hui de savoir que le Christ est ressuscité et que en lui nous ressuscitons nous aussi, cependant, la résurrection n'est pas le but de notre vie. l'essentiel n'est pas de ressusciter. La résurrection est une réalité. La résurrection n'est pas une espérance. La résurrection est un fait, si vous voulez. Mais la résurrection en elle-même n'est encore qu'une marche, qu'une étape qui manifeste la puissance de la vie divine en nous qui nous fait vivre éternellement, qui nous fait ressusciter, qui nous fait dépasser la mort. Mais le but de notre vie, le but de notre création, n'est pas simplement de dépasser la mort en ressuscitant, mais d'acquérir la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Et toute la pédagogie de Dieu, toutes les épreuves glorieuses ou douloureuses que nous vivons pendant notre vie sont des moyens pédagogiques, si je puis les appeler ainsi, que Dieu met à notre disposition pour nous apprendre à vivre comme ressuscité, bien sûr, mais vivre en tant que ressuscité dans l'autre monde, dans le royaume des cieux. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de la vie éternelle. Cette vie éternelle ne peut s'acquérir, bien sûr, que par la communion avec le Christ, qui lui seul est éternel, avec le Père et l'Esprit Saint, mais parce qu'il s'est incarné, parce qu'il a pris notre nature, il crée une union commune, un échange de nature, il prend notre nature humaine pour qu'une fois unis à lui, nous acquérions sa nature aussi divine. Tout le reste, la résurrection sans cela, ne serait rien. Je ne veux pas prendre à témoin nos aînés ici, mais vous avez envie de vivre 4, 5, 10 fois l'âge que vous avez déjà ? Croyez pas qu'au bout d'un certain temps, on s'en lasserait. La vie éternelle n'est pas une vie terrestre sans mort, sans cessation. La vie ne peut avoir de sens que si notre vie terrestre, telle que nous la connaissons, cesse un jour pour nous ouvrir sur une autre dimension, la dimension de la vie éternelle cette fois-ci, mais dans d'autres conditions. La seule vie qui nous soit envisageable, c'est la vie commune avec Dieu. Non pas que nous soyons jaloux de ses prérogatives, mais il nous a créés avec un cœur, avec une âme, qui ont une forme telle que ce sont des réceptacles de la vie éternelle, de la vie divine. Et qu'est-ce que c'est qu'un vase vide s'il n'est pas rempli ? C'est rien. Notre vie est un vase vide. Et il faut le remplir. Poussez pas la comparaison trop loin parce que ça pourrait être... Tout n'est pas juste dans la comparaison. Hein, mais c'est un aspect que je vous ai. Ce vase doit être rempli par une autre vie, la vie divine. Il n'y a qu'une seule vie dans tout l'univers, c'est la vie de Dieu. Tout le reste, l'immensité de la création que vous pouvez découvrir avec les satellites, avec vos télescopes ou tous les moyens scientifiques, ne sont qu'un pâle reflet, qui pourtant à nos yeux est infini, de l'infinitude, si je puis dire, de l'infini de Dieu et de la grandeur de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, qui couvre tout cela à la fois. Mais non seulement il couvre tous les astres, mais il couvre encore d'innombrables mondes, aussi différents les uns des autres que les astres ne le sont que de notre intelligence ou de notre pensée, par exemple. Et Dieu couvre tout ça à la fois. Il ne nous a pas donné la révélation de tout. Mais nous savons que tout cela existe. Et s'il a créé l'homme, parmi toutes les puissances immatérielles, parmi toutes les puissances angéliques, puisqu'on les appelle comme ça, faute de trouver meilleure expression, il a créé l'homme aussi comme le maître de la création, comme le centre de la création, dépassant toutes les autres créatures, dépassant même les anges. Les anges sont des créatures spirituelles, mais nous sommes des créatures à la fois matérielles, cosmiques, si je puis dire, et à la fois spirituelles, mais dont l'organisme, dont la composition, dont la création a pour seul but de nous faire partager la vie divine elle-même. Pouvons-nous avoir un cadeau plus grand? Pouvons-nous avoir une vocation plus grande? C'est impossible. Notre vocation, on n'ose pas toujours le dire, mais on doit le dire en rigueur de terme, notre vocation est une vocation de divinisation, une vocation de devenir Dieu, pas de devenir des dieux pour remplacer, j'allais dire le Dieu principal, si je peux l'exprimer comme ça, c'est pas pour le remplacer, mais pour, tout en étant les créatures divines, étant tellement entré en lui et lui entré en nous par une osmose parfaite que tout en restant des personnes humaines, nous devons devenir aussi collaborateurs, communiants à la nature divine et devenir ainsi Dieu avec Dieu tout en restant des personnes humaines. Donc voilà le but de notre vie. La résurrection, celle du Christ et la nôtre en lui, n'est que le signe de cette transformation en une autre vie. Et le signe de la transformation que notre vie qui se termine historiquement par la mort n'est justement pas une fin en soi, mais qu'elle débouche dans un autre monde, dans un autre état, celui de la vie éternelle, de la vie avec Dieu. Dieu ne pouvait pas ne pas nous ressusciter, sinon nous serions anéantis. Mais étant donné sa volonté de nous associer à lui, il nous ressuscite afin que nous parvenions à cette communion à lui, en lui. Et toutes les vicissitudes de votre vie et la nôtre, il n'y a aucune exception, tous les hommes sont égaux. Toutes nos difficultés, tous nos efforts, tous nos actes de foi, si petits soient-ils, tous nos essais de comprendre un peu les mystères de Dieu, toutes nos prières exprimées ou non exprimées, mais toutes nos aspirations intérieures, toutes nos oppositions, nos luttes, même faibles et même apparemment inefficaces, contre tout ce qui peut nous rabaisser, contre toutes nos passions, contre tout ce qui ne peut nous opposer à Dieu, toute cette lutte-là est assumée par celui dont nous fêtons aujourd'hui la résurrection, qui, en acceptant volontairement lui qui était impassible, en acceptant nos propres tentations, nos difficultés, nos souffrances, nos inconnaissances, notre étroitesse et nos tentations, en les assumant lui-même, mais en ne succombant jamais dans le moindre péché, dans le moindre découragement, dans le moindre manque de foi en son Père, il redonne une autre direction, il redonne une nouvelle force, il redonne un regain de force à notre nature, alors que depuis le péché, l'introduction du péché dans le monde, nous étions dans une pente descendante, en allant toujours vers la facilité qui nous conduit vers le mal. Le Seigneur, en assumant tout cela, redonne à notre être une force et un dynamisme qui nous conduit vers le haut et qui nous fait rompre avec ce qui nous fait descendre en bas. C'est cela le mystère de la résurrection que nous vivons aujourd'hui. C'est cela notre espérance. Il faut que nous en soyons conscients. On en est particulièrement conscients des jours de fête comme aujourd'hui et à d'autres fêtes liturgiques durant l'année, bien sûr. Mais c'est à cela que nous devons nous raccrocher à chaque difficulté, lors de chaque prière, même la plus simple, comme un signe de croix fait presque par automatisme, tous les actes humains et divins que nous pouvons poser comme ça sont toujours une manifestation de la force du Christ qui s'est incarné et qui vit en nous, parce qu'il faut bien avoir conscience que, comme saint Paul le dit, nous sommes un corps unique dont le Christ est le chef, chef pas au sens de capitaine, mais au sens de tête. Donc, il est la tête d'un membre, d'un corps unique dont nous sommes les membres, et la force que la tête nous donne est de retrouver vie et de nous orienter, de nous organiser comme un corps harmonieux qui est celui du Christ. Voilà pourquoi il est tellement important et fondamental que règne entre nous, et pas simplement nous, entre nous les 80 qui sommes ici présents, mais entre nous l'humanité, que nous développions un véritable amour de charité. Je ne parle pas d'amour affectif ou sentimental, mais je parle d'un véritable amour de cœur, de don de soi à tous les hommes de l'humanité depuis les origines jusqu'à la fin des temps, de manière à créer cette harmonie entre tous les membres du corps, car si, par malheur, on ne crée pas cette harmonie par la haine ou l'opposition contre l'un ou l'autre, on se coupe soi-même de ce corps vivant, et c'est cela qui devient notre condamnation, notre enfer. Car en dehors de la vie, eh bien c'est plus la vie. En dehors de la vie, c'est la mort. Donc s'il n'y a pas cette communion entre nous, nous sommes morts. Et toute notre ascèse, toute notre prière, toute notre foi, toutes nos lectures spirituelles, tous les essais de conversion que nous n'ont que cet unique but de créer en Christ cette harmonie entre tous les membres, de manière à ce que ce ne soit plus Almédorine, Tartampion et Berthe qui vivent, mais que ce soit vraiment le Christ qui soit la vraie personne, le centre de la personne d'Almédorine, de Berthe et de Tartampion.